mégahertz. Et c'est donc le moment de notre débat avec deux spécialistes de la santé qui vont répondre à des questions sur des sujets très, très brûlants, très d'actualité, ce que j'ai appelé les nouvelles maladies d'amour. Il s'agit du sida, il s'agit de l'herpès, l'herpès génital, bien sûr. Donc, nous essaierons au cours de cette discussion de savoir un peu, de répondre à quelques questions, à des interrogations sur qu'est-ce que ce sont ces maladies, comment elles se transmettent, comment elles se développent, est-ce qu'on peut faire quelque chose contre ces maladies. Et je vous rappelle, c'est une émission où nous attendons votre téléphone, vos téléphones, car nous sommes sûrs que vous avez aussi, vous, des questions à poser. Alors, n'hésitez pas au 40 51 41 023 depuis la Suisse. Les nouvelles maladies d'amour, donc sida et herpès, un débat de Radio Pleine Lune, 101,4 MHz.
Maladie d'amour, maladie des amoureux, chacha si moi mais moi, ou à ma chérie moi. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, chacha si moi mais moi, ou à ma chérie moi. Pich mimi piti, i piti tout piti, si on dit c'est pas vache, mes amis méfiez-li, quand il t'est li en l'air. Veillez garder l'angli, en bout de lui c'est la mort, c'est mitière en bataille, en bout de lui c'est la mort, c'est mitière en bataille. Oh, maladie d'amour, maladie des amoureux, cherchez sur moi mais moi, ou à marcher derrière moi. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, cherchez sur moi mais moi, ou à marcher derrière moi. Pich, mi, mi, piti. Et petit tout petit, si un dit c'est pas un grâche, mes amis méfiez-les. Quand ils t'êtes liés en l'air, veillez garder l'angli. En bout de lui c'est la mort, c'est mitière en bataille. En bout de lui c'est la mort, c'est mitière en bataille. En bout de lui c'est la mort, c'est mitière en bataille. En bout de lui c'est la mort.
Bien, alors ces nouvelles maladies d'amour que sont l'herpès génital et le sida sont beaucoup moins plaisantes que celles de la chanson, vous l'avez compris. Alors pourquoi on a décidé de parler ce soir de ces deux maladies, de ces maladies de l'amour? Pourquoi? C'est parce que ce sont un peu des phénomènes de société, elles sont un peu les pestes de notre société, de notre époque. Et elles suscitent beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Alors moi j'avais envie de trouver quelques réponses et c'est pour ça que j'ai invité ici deux femmes spécialistes de la santé pour poser mes questions et qui vont peut-être essayer d'y répondre. Et j'invite donc toutes les auditrices et auditeurs à aussi poser les leurs au 40 51 41 023 depuis la Suisse. Alors on va peut-être être graduel dans nos questions et commencer peut-être par la maladie la moins, celle qui fait moins peur, disons la plus bénigne. C'est l'herpès génital. Alors tout de suite, ma première question, c'est un peu qu'est-ce que c'est que l'herpès génital par rapport à ce qu'on connaît comme herpès bouton de fièvre, c'est une espèce d'affreux bouton qui pousse en général au coin de la lèvre. Quelle est la différence entre herpès génital et herpès de la lèvre?
Bon, la différence n'est pas très importante, c'est simplement pas le même virus qui est en cause, c'est son cousin. Mais le phénomène ressemble. Il y a d'abord une démangeaison qui ressentit une espèce de petit picotement. Et puis, au bout de 24 heures environ, il y a des petites vésicules qui apparaissent sur la peau, qui se tendent. Là, ça fait encore, ça fait plus mal. Et à un moment, elle pète, et c'est le moment où on pourrait avoir une vérification au niveau culture que c'est vraiment ce virus qui est en cause. Et après, ça cicatrise plus ou moins rapidement, en une semaine à trois semaines, de nouveau par une petite croûte un peu jaunasse.
Donc c'est l'herpès génital, ça veut dire que c'est ce petit bouton sera dans les muqueuses génitales, c'est ça?
Mais aussi dans les muqueuses du pénis chez l'homme, par exemple. Et ça peut être à l'intérieur du pénis, et il peut ne pas en avoir conscience, surtout s'il a déjà des crises depuis longtemps. Ce n'est pas chaque fois très spectaculaire. Il peut avoir un moment où il a une crise et il est contaminant.
Alors on dit toujours que ce qu'on entend par rapport à l'herpès, c'est qu'une fois qu'on a l'herpès, c'est foutu, on l'a pour toute la vie, c'est vrai?
Alors, moi, je crois que ce n'est pas vrai. D'abord, il faudrait séparer un peu deux choses. Il y a tout ce qu'on raconte et comment on veut utiliser cette histoire. Et puis, il y a ce qui se passe véritablement. Ces virus, maintenant, on leur fait tout porter. Bon, tu disais tout à l'heure, c'est moins grave que le sida, je ne sais pas, puisqu'on dit même qu'un virus, il peut faire déraper une cellule et la faire devenir cancéreuse. Donc, l'herpès, ce serait quelque chose d'assez terrible. Si ça durait plusieurs années, ce serait un facteur de risque important. Donc, il y a aussi ce qu'on veut lui faire porter. Par exemple, dans le mouvement droite aux États-Unis, c'est un bon moyen pour critiquer les relations multiples, enfin tous les dérapages, tous les éloignements de la famille, de la servitude de la femme pour l'homme. Alors derrière tout ça, on en profite pour faire des informations paniquantes de cet ordre-là, justement, que si vous l'avez, vous l'aurez pour la vie.
Mais en tout cas, je ne sais pas, l'herpès labial, moi je connais plusieurs personnes qui ont effectivement des crises récurrentes, c'est-à-dire ça revient régulièrement, cet herpès. On a l'impression, bon, on peut le soigner, c'est-à-dire le calmer, mais que ça revient. C'est la même chose pour l'herpès génital.
Je suis quand même contente de pouvoir vous dire qu'il existe des traitements alternatifs, que nous on les a expérimentés ici.
Attends,
à Genève.
On va peut-être revenir un peu plus tard sur le traitement. Parce que
Donc on peut s'en débarrasser, je veux dire, c'est pas vrai, mais si on veut bien faire un certain travail, voir, essayer de s'approcher un tout petit peu de qu'est-ce qu'il y a de faible dans son organisme contre ce virus, et si, c'est une question qui est d'ailleurs valable pour toutes ces maladies immunitaires, et s'il y a un moyen de travailler ça, peut-être qu'il y aurait aussi moyen de regagner.
Ce que j'avais cru comprendre sur l'herpès, c'est que ce virus en fait était toujours présent dans les cellules, et qu'il s'activait, disons qu'il était inactif la plupart du temps, et puis de temps en temps il devenait actif, soit parce qu'on était fatigué, soit parce qu'on avait été au soleil, soit parce qu'on avait, un peu de fièvre, et que ça le rendait actif, mais que de fait le virus ne quittait jamais sa cellule hôte.
Oui, mais on vit sur cette planète avec ces virus comme on vit avec ces bactéries. On a moins peur maintenant des bactéries. Maintenant, on a une peur terrible de ces virus qui sont des plus petits organismes. Mais bon, ils vivent sur cette planète avec nous. Puis il y a quand même des sujets qu'on dit non herpétiques qui, eux, peuvent rencontrer ce virus. Par exemple, avoir une relation régulière avec un partenaire qui est herpétique et ne pas devenir herpétique eux-mêmes. Donc pourquoi ce serait pas possible que le sujet qui est lui herpétique retrouve une certaine défense qui fait qu'il se remet dans le camp des non-herpétiques. Il y a quand même une circulation entre ces deux camps, des herpétiques et des non-herpétiques, dans l'histoire des vies des gens. Donc, c'est bien qu'il y a autre chose que la fatalité.
D'accord. Alors, l'herpès génital, ça se transmet surtout par rapport sexuel. Donc. C'est comme ça que ça se transmet?
Oui, surtout, mais il n'y a pas besoin qu'il y ait forcément une pénétration au sens du rapport sexuel. Hein. Il suffit qu'il y ait un contact de muqueuse à muqueuse, de sang à sang. Donc c'est quand même beaucoup plus large que juste le rapport sexuel qu'on veut bien identifier, comme dans la pénétration, éjaculation, etc. C'est quand même un peu plus vague.
Mais est-ce qu'on peut passer d'un herpès de la bouche, par exemple, à un herpès génital? Ou est-ce que ce sont deux types de
maladies?
Non, ce
n'est pas le même virus qui va sauter de la bouche sur la vulve, mais par contre, le terrain qui est peu résistant au virus de la bouche est aussi malheureusement plus résistant à son cousin. Mm-hmm. Alors s'il le rencontre, il y aura droit.
Parce que tu disais, la droite l'utilise comme... épouvantail pour essayer de remettre sur pied une nouvelle morale. D'ailleurs, j'ai lu dans le journal qu'on a assisté à des scènes de lynchage de petits enfants qui avaient des herpès sur la joue, donc un autre type d'herpès, lynchés par les autres enfants d'une école sous l'incitation des parents. Donc il y a une peur quand même très très forte qu'on puisse entrer en contact avec ce virus. Et c'est vrai, moi j'étais en Amérique du Nord, et puis c'est vrai qu'on y réfléchit. Je veux dire, on n'a pas cette liberté de la drague, par exemple, parce qu'on se dit, bon, ma mère n'en a pas envie d'attraper l'herpès par-dessus ça. Donc il y a quand même, c'est vrai que cette peur, elle est là, on ne peut pas la nier. Je veux dire, il y a un risque par rapport sexuel, pas nécessairement de pénétration, d'attraper l'herpès, et puis après, on peut s'en débarrasser, mais c'est quand même une histoire, non ?
C'est vrai, mais c'est aussi valable pour les autres maladies infectieuses. Je veux dire, on a un risque de choper un germe, éventuellement, si on a une certaine faiblesse qui se met sur les voies respiratoires et qu'on ait une pneumonie. Et bon, c'est quand même embêtant, c'est vrai, ça fait un arrêt de travail prolongé, c'est très fatigant, mais long pour s'en remettre, mais on n'y met pas la même charge. Derrière, autant émotionnel que de responsabilité qu'une certaine personne pourrait éventuellement avoir à l'égard d'une autre, parce que ce serait d'elle que ce serait venu. Et c'est là que toute la morale et la politique qui est derrière la sexualité interfèrent, parce qu'on pourrait dire la même chose de toutes sortes d'autres maladies infectieuses, où il y a aussi une contamination par les postillons, par la rencontre dans des locaux publics. On va jusqu'où on va.
Mais disons, est-ce que dans le cas de contamination, si on a des rapports sexuels avec quelqu'un qui a un herpès, mais dont l'herpès est inactif, est-ce qu'on pourrait l'attraper ?
Non.
Donc l'herpès est contagieux en phase...
Que en crise.
En crise. Donc quand on voit, mais tu dis, quand on voit à ce moment-là, on voit le bouton, enfin on voit l'herpès.
Les premières fois, oui, parce que il y a des ganglions qui sont enflés, et alors la personne s'étonne, qu'est-ce qui m'arrive, je dois avoir quelque chose. Mais petit à petit, quand même, il y a une certaine immunité naturelle qui se relève. Les crises deviennent de moins en moins importantes, et c'est possible sur dans la deuxième année, troisième année, que la personne ne sache plus exactement quand elle est en crise et quand elle n'est pas en crise.
C'est à ce moment-là que ça pourrait vraiment être un facteur de contamination, disons.
Mais il faut encore que l'autre soit faible aussi à ce moment-là, parce qu'elle a pu avoir des rapports avec cette personne à d'autres moments où elle était en crise et ne pas avoir été malade elle-même.
Et puis, j'ai cru savoir que c'était dangereux au moment d'un accouchement.
Oui, on continue à considérer que c'est dangereux au moment d'un accouchement et qu'en cas de culture positive, en fin de grossesse, il est préférable de faire une césarienne. Il y a malheureusement... pas beaucoup de désinfection, enfin il y a d'autres tentatives, ça dépend des écoles, ça change d'année en année, si on essaie de faire une désinfection puis quand même accoucher par les voies basses, ou bien si c'est une véritable indication pour une césarienne, mais c'est des contrôles assez sérieux à faire, oui.
Mais c'est quoi les dangers c'est les dangers pour la femme, pour l'enfant, c'est quoi?
Ah, c'est pour l'enfant dans le cas particulier. La femme, elle est déjà herpétique, c'est sa 151e crise ou sa 152e, peu importe. Non, c'est pour l'enfant. Là, je me tourne vers l'autre personne. Qu'est-ce que ça leur donne déjà aux enfants? Le risque, j'entends, parce que de nouveau, chez eux aussi, il peut y avoir encore un pourcentage de résistance.
Il y a des problèmes d'encéphalite, très très graves en fait. C'est pour ça que c'est très important de faire une prévention et de savoir que quelqu'un est herpétique avant l'accouchement.
Mais on a quand même l'impression, quand on lit les journaux, mais alors peut-être tu me diras que c'est juste pour faire peur, on a quand même l'impression que ces cas d'herpès sont en augmentation. C'est vrai ou est-ce que c'est uniquement une...
Mais ce qui est en augmentation, c'est le nombre de personnes qui ont des problèmes d'immunité. C'est ça qui est en augmentation. Ce n'est pas l'herpès, à mon avis. Il faudrait le prendre d'une autre manière pour pouvoir l'interpréter et réagir à ça d'une manière constructive. Parce que si c'est juste...
Mais déjà au niveau de l'incidence de l'herpès, si on prend le nombre d'herpès, est-ce qu'on peut dire qu'il est en augmentation?
Oui, il est en augmentation, c'est sûr. Comme toutes les maladies immunitaires sont en augmentation.
L'herpès génital, propre.
L'herpès génital, l'herpès labial, le sida sont en augmentation. Donc et les cancers sont en augmentation également.
Mais tu es sûr que c'est vraiment une baisse de l'immunité ou bien plutôt c'est une histoire de mœurs, quoi, que les gens vont plus à droite à gauche et que ça fait...
Non, moi je crois pas. Bon, je pense que c'est aussi un facteur, c'est évident. Ouais. On l'a vu dans le sida, comment ça voyage, etc. Mais ça, c'est un facteur sur lequel il y a plus d'imbrication morale possible, alors qu'il y en aurait un autre, ce serait d'accepter de considérer qu'on vit sur cette planète avec des virus, qu'on vit sur cette planète avec des bactéries, et que on doit essayer, nous, de trouver une situation d'adaptation par rapport à ce milieu, Et puis de confronter qu'est-ce que ça veut dire, cette adaptation par rapport à ce milieu. Et puis ça, cette manière offre, à mon avis, hein, plus de chances de se défendre et de travail aussi, et de recherche. C'est toute une voie dans la recherche qui a peu été investiguée et qui donnerait pourtant plus d'espoir et plus de satisfaction. Parce que juste se compter ses morts... attendre un vaccin qui ne viendra pas avant 8 ans, proposer des tests qui ne sont pas toujours efficaces et dont on ne sait de toute façon pas quoi faire avec ceux qui seraient positifs. À quoi ça nous mène de toute façon? Ça ne nous mène à rien si ce n'est à culpabiliser les gens qu'ils sont en train de trop baiser à gauche et à droite.
Donc toi, tu aurais tendance à dire, donc si j'ai bien compris, pour toi, l'herpès, c'est une question de baisse de l'immunité, donc de baisse de la défense du corps, et que c'est donc à traiter comme ça, comme un problème général, et qu'il ne faut pas essayer de limiter cette maladie en tant que telle.
Oui, moi je crois vraiment que tant qu'il existe encore des non-herpétiques, c'est donc qu'il y a possibilité de résister à ce virus. Donc s'il y a possibilité de résister à ce virus, il s'agit de savoir comment c'est résister à ce virus et puis essayer de revenir à cet état.
Mais il y a aussi les questions de terrain, en fait. Ce n'est pas seulement comment résister à ce virus, mais que certaines personnes seraient plus sensibles au virus herpès, donc se feraient infecter beaucoup plus que d'autres qui seraient en contact avec l'herpès, mais qui n'auraient pas le terrain, donc qui ne se feraient pas infecter.
Mais c'est ça. Je parle de la même chose. Simplement, terrain, c'est un terme... plus qu'on emploie comme ça dans la naturopathie, mais disons c'est aussi un comment, dans le sens que on peut remarquer que certaines personnes sont sujettes à certaines maladies et pas à toutes. C'est ça qu'on entend par terrain, il y a des personnes qui sont plutôt susceptibles de ceci et d'autres de cela. Et bon, plus on avance dans cette recherche d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont en commun, toutes ces personnes, plus on a de chance de pouvoir donner des réponses aussi à ces phénomènes. Mais c'est bien de ça dont je veux parler. Maintenant, bien sûr, on peut aussi faire un discours tout à fait inverse. Mais moi, pour cette soirée, j'aurais le plaisir de vous plaider cette cause-là.
Bien, alors je rappelle aux auditrices et aux auditeurs qui peuvent elles aussi, poser leurs questions en téléphonant au 40 51 41 023 depuis la Suisse. Et on va illustrer musicalement cette émission avec des musiques de Klaus Naomi. Klaus Naomi, c'est un Américain qui est mort du sida, mais on nous promet que le sida, en tout cas, ne se transmet pas par les ondes. Alors n'ayez pas peur. Bien alors, deuxième maladie du sexe, donc le sida. Le sida aussi, c'est une maladie du sexe parce qu'on l'attrape entre autres par les rapports sexuels, pas seulement, mais elle est très connotée sexuellement parce que, disons, la découvre. Hein. Les cas de sida et son développement a aussi été utilisé beaucoup par une majorité pas tellement silencieuse que ça, pour remettre au jour une morale familiale, un couple monolithique, monogame, et durant toute la vie. Maintenant, c'est plus par amour, c'est par peur du sida. Alors, bon, le sida, c'est quoi ?
Le sida, c'est quoi ? Alors, donc, le sida, ça veut dire syndrome d'immunodéficience acquise. Donc, on vient de découvrir qu'en fait, c'est une maladie à virus. C'est une maladie donc, sexuellement transmissible, qui se transmet par le sang, par le sperme et peut-être par la salive.
Comment, par la salive ? Moi, j'ai toujours... répète.
Non, ça c'est un article que j'ai lu qui montre qu'il y aurait eu la présence de virus dans la salive, mais... classiquement, depuis 2-3 ans, on dit surtout que c'est sexuellement transmissible par le sperme et par le sang.
Bien, alors je crois qu'il y a une question qui nous vient par le téléphone. Alors, est-ce qu'il y a une question ?
Oui, sur l'herpès.
Alors, une question sur l'herpès. Attendez, elle entre en ligne. Voilà, tu nous entends ?
Oui.
Voilà.
Alors, bon, j'arrive un peu tard, là, mais il y avait Klaus Nomi, puis il a terminé avant que je puisse poser ma question sur l'herpès.
Mais ça fait rien, tu peux y aller.
Alors, l'herpès, c'est une maladie emmerdante, mais a priori moins fulgurante que le sida. Est-ce qu'on peut cependant en mourir ? Est-ce qu'il existe une phase terminale de l'herpès ? Quand on est, je sais pas moi, tout bouffé, tout pourri par l'herpès, ça existe ?
Qui veut répondre ? Tu veux répondre ?
Est-ce qu'il existe une phase terminale de l'herpès ? Non, moi je connais pas, non, je crois pas. Je pense que, par contre, ce dont on peut mourir, c'est le lien qu'il y a, c'est que si l'immunité baisse, ça veut dire qu'elle baissera malheureusement aussi à d'autres facteurs contaminants. C'est pas si sélectif. Alors peut-être cette personne, on peut se demander si elle a la même espérance de vie, si son immunité elle baisse vraiment énormément. C'est le cas par exemple du sida qu'on voit qui touche des personnes qui... On s'est posé les questions de savoir quel était le lien avec le fait que c'est l'utilisation des poppers, l'utilisation d'autres hallucinogènes ou releveurs de l'orgasme, l'utilisation de drogues dures qui baissent l'immunité. Puis là, alors vraiment, baisse l'espérance de vie sérieusement. Mais non, des cas terminaux d'herpès dont on claque, à ma connaissance, ça n'existe pas.
C'est un virus qui provoque l'herpès.
C'est cela, oui.
Et le sida aussi.
Et le sida aussi. Sauf que le virus du sida, on ne l'a pas encore tout à fait bien identifié.
C'est pas l'AV qui s'appelle ?
Oui, ça c'est ce que disent les Français, mais les Américains, ils ont une autre... ils ont encore un autre nom, ce serait le HTLV-3.
Il n'y a aucun rapport de parenté entre le virus de l'herpès et celui du sida ?
Ce qu'on sait sur les virus pour le moment, c'est très peu par rapport à ce qu'on sait sur les bactéries qu'on a beaucoup plus étudiées. Alors, tout ce qu'on peut dire est encore peut-être approximatif par rapport à ce qu'on pourra dire dans 20 ou 30 ans.
Bon, ce qu'il faut dire sur les virus,
bon, je vais raccrocher là.
C'est que ce sont des organismes qui ont absolument besoin de proliférer dans une cellule vivante. Donc, les bactéries peuvent tout à fait se contenter d'un milieu approprié qui les nourrit avec des vitamines, des protéines, etc. C'est pour ça qu'on peut les cultiver sur des milieux inertes, alors que les virus ont besoin de cellules vivantes. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas réussi à trouver de véritables médicaments.
Ouais, ton micro, il passe pas sur les ondes, ça fait déjà un moment que je le pense. Hein.
Understand, you're old enough to learn the makings of a man. Listen to me, baby, it's time to settle down. Am I asking too much for you to stick around? Every boy wants a girl he can trust to the very end. Baby, that's you, won't you stay? But till then, when I see your lips, wedding to be kissed. I can't stop myself.
No!
Has taken over my one crack mind. Believe it or not, you're in my heart all the time. All the girls are saying that you'll end up a fool. For the time being, baby, live by my rule. I settle down. I want one baby on my mind. Forgive and forget.
Moi, je crois qu'il y a eu un petit ennui technique, excusez-moi. Donc, j'étais en train de parler des virus, et que ce sont des organismes qui, contrairement aux bactéries, ont besoin d'une cellule vivante pour proliférer. Donc, ça pose le problème des médicaments antiviraux, c'est-à-dire que, comme c'est des organismes qui utilisent le matériel génétique, les protéines des cellules vivantes, dès qu'on introduit un médicament qui attaque les virus, on attaque aussi les cellules. Donc c'est la raison pour laquelle les médicaments antiviraux sont encore pleins d'effets secondaires et sont pratiquement pas utilisés. Et ça, c'est de ça un peu que provient notre peur, parce qu'aux bactéries, avec les bactéries, on est assez au point. Il y a les antibiotiques qui sont spécifiques, qui attaquent uniquement les bactéries et pas les cellules vivantes, en principe, disons, avec quelques effets secondaires. Mais concernant les virus, ça attaque le corps, quoi, en même temps que les virus.
Alors bon, pour revenir au sida, donc c'est un virus qui provoque un collapse de l'immunité chez la personne. Hein, c'est ça que ça veut dire. Oui. Syndrome immunodéficience
acquise.
Oui. Et donc la personne perd toute son immunité et peut choper n'importe quelle infection.
Oui, tout à fait. Donc ce qu'il faut dire sur l'immunité, c'est que c'est tout un système extrêmement complexe qui protège le corps contre les agressions extérieures. Et puis, ce système immunitaire est quelquefois pathologique. Soit il réagit trop, c'est les allergies. Donc, quelqu'un de normal qui respire du pollen d'arbre va rester asymptomatique, alors que quelqu'un qui est allergique va réagir très très fort contre ces particules étrangères et va provoquer une réaction pathologique. Alors, il y a l'inverse qui se passe aussi, c'est que quelquefois, les gens... ont un système immunitaire déficient. Et ça, on le connaît, il y a des systèmes immunitaires déficients congénitaux. Donc c'est les fameux enfants bulles qui n'ont aucune défense contre les agressions extérieures qu'on doit conserver dans des milieux stériles. Et puis le fait nouveau, c'est ces immunodéficiences acquises qui existent déjà depuis longtemps, qui sont là avec toutes sortes de maladies comme l'hépatite, comme d'autres comme l'herpès probablement, qui provoquent une immunodéficience.
Donc en fait, on ne meurt pas du sida directement, mais on meurt de n'importe quelle autre infection.
Voilà. Donc la définition du sida actuel, c'est des gens qui ont des infections opportunistes, c'est-à-dire des germes qui profitent que l'immunité soit déficiente pour s'installer. Des gens qui ont une immunité normale et qui ont ces virus ne développent absolument rien du tout. Alors que les gens qui ont ce virus vont attraper n'importe quelle infection et mourir de ça avant tout. Et puis bon, il y a le problème du sarcome de Kaposi, qui est une tumeur particulière qui se développe chez les gens qui sont justement déficients immunitairement.
Alors, tu disais que ça se transmettait, donc cette maladie se transmet soit par le sperme, soit par le sang, principalement. Ce sont les deux voies de transmission.
Oui, oui. Ouais.
Donc on peut l'attraper soit avec un rapport sexuel avec un homme,
oui,
soit par contact avec le sang.
Oui, c'est ça.
Et il y aurait d'autres... tu disais qu'il y a eu peut-être des cas avec la salive.
Donc ils auraient trouvé des virus du sida également dans la salive. Mais ça c'est encore pas prouvé. Il y a tellement de trucs qui se passent sur le sida maintenant, il y a tellement d'études contradictoires, et puis, mais bon, disons que ce qui est sûr, c'est que ça passe par le sang principalement. Le sperme et la salive, c'est un petit peu
accessoire.
Qu'est-ce que ça veut dire, accessoire?
C'est-à-dire que ce qu'on est sur maintenant, c'est que ça passe par le sang. Donc, c'est pas un hasard que les homosexuels masculins puissent attraper le sida de préférence parce qu'ils ont souvent des fissures anales. Hein. Donc là, il y a une ouverture, une porte sanguine pour le virus du sida. De même qu'on sait que le sida est très fréquent en Afrique. Et en Afrique, il y a toutes sortes toutes les piqûres d'insectes et puis toutes les techniques de scarification traditionnelles et puis le manque d'asepsie concernant les injections
Alors etc. Justement, donc t'en as fait mention là deux fois, il y a des populations à risque. Pour l'instant, pas tout le monde a un triple sida, c'est surtout des homosexuels, ensuite des toxicomanes, des prostituées et ensuite...
Des hémophiles.
Des hémophiles et ensuite des populations provenant du Centrafrique, Zaïre principalement. Donc comment ça se fait que ce soit pourquoi ces populations à risque?
Oui. Alors il y a différentes théories qui sont pas du tout prouvées actuellement, mais on penserait que le virus du sida proviennent d'Afrique. Parce que dans les études épidémiologiques concernant l'Afrique, on voit que le virus est beaucoup plus avancé dans la population générale. C'est-à-dire que ça ne concerne plus du tout des populations à risque, qu'on a nommées avant, mais la population générale, les femmes, les hommes, hétéros, etc. Donc on pense que le virus a probablement commencé avec des groupes à risque et puis s'est étendu comme probablement il pourrait s'étendre en Europe et aux États-Unis.
Tu veux dire qu'il proviendrait de Centrafrique, qu'il aurait frappé au début uniquement des homosexuels, par exemple zaïrois, et de là aurait contaminé le reste plus largement la population, ou est-ce que en Afrique il serait directement un virus plus diffusé que simplement chez les homosexuels?
Bon, ce qu'il y a, c'est qu'on sait pas du tout. Hein. À l'origine, donc avec le SIDA, il y a une tumeur qui s'appelle le sarcome de Kaposi. Qui vient dans 20% des cas. Mais c'est un sarcome de Kaposi qui est un petit peu modifié, qui est un pseudo-sarcome de Kaposi, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus virulent, il tue en 4-5 ans alors que l'autre avait une espérance de vie de 10-15 ans. Donc il y a eu un changement là, qui est probablement une mutation, où on ne sait pas très bien encore. Donc, ça pourrait expliquer
Mais comment ça se fait Est-ce que c'est courant qu'il y ait des virus comme ça qui soient localisés géographiquement, qu'on puisse dire, voilà, c'est de là qu'est né le virus?
Ah oui, tout à fait. Oui.
Donc il y a des populations ethniques qui ont chacune leur maladie.
Voilà, parce qu'il faut dire aussi que les virus souvent profitent d'autres maladies, comme par exemple la malaria. Donc ils profitent d'un état un petit peu affaibli des gens pour s'introduire et devenir virulents. Donc il y aurait tout à fait la possibilité que la malaria, par exemple, soit un cofacteur ou de l'histoire du sida.
Bon. Mais d'après ce que j'ai compris, on n'a pas du tout trouvé de cas de sida en Asie ou en Amérique latine.
Non, pas du tout, effectivement. Mais bon, il y a ce foyer africain, il y a aussi le foyer haïtien. Donc tout ça, c'est des études épidémiologiques. On n'en a encore pas tiré des conclusions. Hein.
Mais je croyais que Haïti était relié au Centrafrique dans la mesure où c'est des anciens, disons, des esclaves centrafricains qui ont peuplé Haïti, non?
Oui, là, il y a une histoire de population. Parce qu'en plus, quand il y a eu la libération du Congo belge qui est devenu le Zaïre, il y a eu un immense afflux de Haïtiens au Zaïre. Alors, est-ce que le sida est parti de Haïti? Ça, on n'en sait rien. Et puis, les Haïtiens, ensuite, immigrés au Zaïre, 10 ans plus tard, ils sont allés en Europe et aux États-Unis.
Bien.
J'aimerais juste encore dire quelque chose, c'est que dans les années 50, où la répression homosexuelle était extrême aux États-Unis, il y a beaucoup de gays américains qui allaient passer leurs vacances en Haïti. Et qui repartait. Alors là, on ne peut pas tirer de conclusion, on peut simplement remarquer tous ces faits politiques, en fait, entre Haïti, l'Afrique équatoriale, et puis ensuite l'Europe, les États-Unis.
Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 40 51 41 023 depuis la Suisse. N'hésitez pas à téléphoner pour poser toutes vos questions. Alors, un téléphone sur la ligne, une question. Voilà, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends.
Alors, allez-y, posez votre question.
Alors, ma question était, pour quelqu'un qui a été en contact avec le HTLV-3, donc qui présente des anticorps, est-ce qu'on sait si c'est une personne qui, est encore, qui peut encore communiquer le sida, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est stabilisé ?
Tu as entendu la question ? Donc, est-ce que si quelqu'un a été en contact, présente les anticorps au virus, est-ce qu'elle peut transmettre le sida ? C'est ça la question, hein ?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a les anticorps, mais il n'y a plus le virus, enfin, de repérer.
D'accord.
Oui. Bon, ça, c'est un grand problème sur ce test de dépistage du sida. C'est-à-dire que les anticorps nous donne l'indication que la personne a été en contact avec le virus du sida, mais on n'est pas très sûr si le virus est encore présent dans les cellules et que les anticorps sont là pour en témoigner, ou bien s'il n'est plus là, s'il a été éradiqué. Alors,
ce qu'on sait en tout cas, c'est que le nombre de personnes qui ont un test positif est numériquement beaucoup plus énorme que le nombre de malades, et encore plus énorme que le nombre de malades mourants. Donc il y a une disproportion énorme entre le nombre de personnes qu'on pourrait dépister qui auraient des anticorps positifs et puis le nombre de malades. Donc ce n'est pas encore malheureusement un niveau interprétable aujourd'hui.
Tout à fait. Et ce qu'il faut dire encore, c'est que même si on attrape le virus du sida par quelqu'un qui a eu le sida, il y a seulement 10% des gens qui développent un vrai sida, c'est-à-dire avec une tumeur, un sarcome de Kaposi, des infections opportunistes, etc. Les autres, ils auront ce qu'on appelle actuellement un parasida, c'est-à-dire des ganglions enflés partout, des diarrhées, une fièvre, mais qui vont très bien s'en remettre. Donc, parmi ceux qui auront une symptomatologie atténuée, il y en a seulement 10% qui développeront le vrai sida avec tumeur et probabilité de mourir dans les 5 ans.
Et d'après ce que j'ai cru comprendre, même ces gens qui ont le parasida, c'est encore une toute petite proportion des gens qui sont positifs aux anticorps.
Ah, toute petite alors. Et puis, de ces gens qui ont le parasida, il y en a seulement 10%. Ce qui est assez peu.
Bien, on reviendra un peu sur cette question des tests plus loin. Est-ce que tu veux poser encore une autre question ?
Non, j'ai eu ma réponse. Merci beaucoup.
Bien, merci. Je vous rappelle à toutes et à tous que vous pouvez nous téléphoner pour poser vos questions au 40 51 41. Encore une question. Voilà.
Ouais. Voilà. La question, c'est au sujet de ces tout petits pourcentages en fait de gens qui présentent qui ont été en contact avec le virus du sida et puis qui développent un véritable sida. Je me demandais si parasida, sida, etc., ce n'était pas en fait une sorte de chronologie du sida, c'est-à-dire différentes étapes, plusieurs étapes dans le développement d'un sida. Et est-ce que... c'est peut-être complètement stupide ce que je demande. Je voudrais justement savoir si c'est stupide.
Non, je crois qu'heureusement, on ne peut pas dire ça. Je crois qu'il existe vraiment une possibilité de résister à ce virus et qu'elle est heureusement le cas de la majorité de la population. Mmh. Et ce qu'il faudrait essayer de savoir et de travailler ces prochaines années, ce serait plutôt de savoir qu'est-ce qu'ont en commun tous ceux qui ne résistent pas, plutôt que de penser qu'il n'y a qu'une échéance, c'est celle du vrai sida et celle du décès.
Oui, parce que ça, c'est ça la psychose qui est répandue actuellement, hein. C'est à ce sujet-là qu'il y a tout ce battage, hein, que les bagouanes, etc., se mobilisent et tout, en disant que en fait, l'échéance, c'est 5 ans, c'est que, bon, il y a des tas de gens qui ont été en contact avec ce virus, mais qu'il y a 5 ans d'incubation, et puis qu'un jour ou l'autre, paf, tout le monde péclote.
Mais c'est des personnes qui cherchent encore la punition ultime pour contrôler le sens de la vie qu'ils n'ont peut-être plus.
Oui, mais ça, c'est idéologique. J'aimerais une réponse sérieuse.
Mais une réponse sérieuse, je ne sais pas, je crois que c'est quand même une réponse de dire effectivement qu'on ne peut pas penser que toutes les personnes qui ont des anticorps positifs ultimement arriveront forcément à des signes et puis au véritable sida. Je crois que c'est variable d'ailleurs pour les autres infections, pour les infections comme la toxoplasmose ou la rubéole. Il y a un grand nombre de femmes qui ont des tests positifs, par exemple. Bon, c'est des tests qu'on surveille dans la grossesse en particulier. Et puis bon, il y en a très peu qui se souviennent d'avoir fait vraiment une maladie. Pour la rubéole, encore tout au plus, mais pour la toxo, il y en a un grand nombre qui ne sait absolument pas avoir fait une maladie et qui a pourtant réussi à devenir positive.
Il faut dire simplement, encore plus simple que ça, la grippe, c'est une maladie à virus qui fait peur à personne parce que tout le monde a eu une fois ou l'autre la grippe. Eh ben, c'est une maladie quand même qui est dans les 10 causes de mortalité aux États-Unis avec les pneumonies à bactéries. Donc, et puis son côté les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est une maladie extrêmement importante pour les gens âgés, pour les gens qui sont justement sous médicaments, qui leur baissent l'immunité, pour des tas de gens. Mais personne s'en offusque parce que tout le monde a eu la grippe une fois, puis ça s'est très bien passé, et puis tout le monde a plus ou moins résisté à ça.
Et puis parce que c'est pas dans l'air sexuel.
Voilà. En plus, c'est pas dans l'air sexuel.
Mais quand même, bon, j'opine dans le sens de la question de notre auditrice, parce que c'est vrai, de ce qu'on peut lire, le temps de latence est long. Dans le sida, c'est 5 ans. Or, les premiers cas de sida qui ont été mentionnés, c'est en 81. Donc, c'est pas une vieille maladie. Bon, après, on pourra essayer d'expliquer, tu nous expliqueras comment ça se fait que tout à coup, elle arrive. Mais disons, ça fait 4 ans que c'est là, donc on ne sait pas. Peut-être que les gens qui ont le parasida maintenant, effectivement, développeraient un sida. Est-ce qu'on peut le dire vraiment de façon si catégorique que tu le dis? Non, les gens qui ont le parasida ne développeront pas. Vous avez compris.
C'est-à-dire
ne
qu'on
pas le sida.
On peut le dire dans un sens ou dans l'autre. D'une certaine façon, c'est juste de dire qu'ils peuvent le développer, que, dans le sens qu'on sait que le nombre est en augmentation et qu'on sait aussi, par exemple, que l'alimentation qu'on a se détériore de plus en plus. Alors bon, si on compte ça, si on le prend en compte sérieusement et qu'on considère en effet qu'il y a de plus en plus de céréales raffinées, qu'il y a de plus en plus d'alimentation qui passe par des chaînes alimentaires commerciales importantes qui des fois les irradient, qui des fois les traitent de différentes façons, que l'alimentation donc va continuer à se dégénérer. On n'a qu'à regarder aux États-Unis quand on veut un petit peu regarder sur nous-mêmes dans 5 ou 10 ans. Si on tient ce facteur en compte, on peut penser effectivement qu'il y a un plus grand nombre de personnes porteuses qui vont être malades dans un certain futur. Mais ça ne veut quand même pas dire qu'il n'y a pas moyen de retenir des facteurs favorisants, de travailler dessus et puis de se mettre dans le camp de ceux qui résisteront.
Mmh. Oui, d'accord. Est-ce qu'on a répondu à la question?
Oui. Oui, mais j'aimerais qu'on m'explique quand même cette histoire de 5 ans de latence. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a établi ces 5 ans? D'où ça vient, cette certitude au sujet des 5 ans de latence?
Ben ça vient des études épidémiologiques, c'est-à-dire que c'est simplement une observation de ce qui s'est passé avec le sida. Des gens qui présentaient des adénopathies, des diarrhées, des fièvres, ont développé au bout de 5 ans ce qui caractérise le sida, c'est-à-dire des sarcomes de Kaposi, des infections opportunistes et des lymphomes cérébraux. C'est une simple observation. On connaît encore très peu de choses sur l'histoire de la maladie. On ne serait pas capable d'écrire un chapitre sur le sida dans les bouquins de médecine avec incubation, déroulement de la maladie, traitement. On est encore incapable. On en est
à regarder ce qu'on a observé depuis l'apparition de cette notion de sida, c'est-à-dire en 1981. Donc on a très peu d'informations sur l'histoire naturelle de la maladie.
Donc si on commence par avoir un test positif au LAV, ou je ne sais pas comment oui. ça s'appelle en Amérique, et puis des diarrhées, on risque de se retrouver avec des lymphomes cérébraux au bout de 5 ans et des sarcomes de Kilosi.
Mais
bonjour les dégâts.
Mais on a aussi peut-être 5 ans pour essayer de travailler son problème immunitaire bien à soi, les blocs qui ont pu éventuellement créer cette baisse immunitaire, 5 ans pour le redresser.
En faisant du jogging?
Bon, non, je crois qu'on peut rentrer dans les détails si ça t'intéresse, mais je crois que c'est réellement une possibilité.
On parlera des traitements dans un chapitre, hein, si tout le monde est d'accord.
Bon, je vais raccrocher alors.
D'accord.
Merci.
Alors,
bonsoir.
À vos téléphones, téléphonez pour poser vos questions. Alors, c'est quand même étrange, oui, parlons un peu de cet acte de naissance du sida, de ce virus, parce que je crois que c'est peut-être la première fois dans l'histoire médicale qu'on peut vraiment dater un virus. Là, je lis dans un article, le 1er juin, en juin 1981, on détecte les premiers cas de maladie qu'après on appellera le sida. Donc il y a eu une date de naissance. Comment ça se fait tout à coup, paf, un virus? Bien, alors pour des raisons techniques, on répondra un peu plus tard et on continue avec de la musique de Klaus Nomi. Klaus Nomi est un compositeur, chanteur américain qui est mort lui-même du sida. Don't say I